La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
Alors on est toujours dans la midinale du lundi 15 octobre, c'est la deuxième partie, s'informer autrement. On vient d'écouter une chanson d'Ichelin, Lettre à la petite amie de l'ennemi public, numéro 1. Et le morceau d'avant, je ne me rappelle plus.
Peter Kernel.
Merci.
There is nothing like you.
Alors, on va commencer cette deuxième partie par vous diffuser un son. On n'a pas encore une interview de Hélène et Baptiste, deux personnes donc, qui travaillent à la ferme de Kermarzin à Argol. C'est dans la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Elle est connue plutôt comme étant la maison du cidre. On appelle ça souvent comme ça. En fait, eux l'ont repris il y a plusieurs années et veulent plutôt mettre en avant l'aspect ferme que l'aspect seulement... C'est pas seulement une cidrerie. Et on va les écouter, raconter un petit peu ce qu'ils font. C'est une interview que j'ai faite, je crois que c'était le 12 ou le 13 ou le 14 août 2018, pendant l'été, pendant que le réseau Salaria s'y retrouvait pendant les estivales du réseau Salaria.
On est à Kermarzin. Et je m'appelle Hélène. Et donc ici, c'est une ferme cidricole à la base. C'est ça, ça dépend, c'est comme le côté traditionnel. On ne sait jamais à partir de combien c'est la base ou le traditionnel, combien de temps. Donc en tout cas, quand on est arrivé là sur la ferme en 2009, c'était une ferme cidricole. Avec une vocation plutôt tournée autour des activités touristiques, avec un musée, une crêperie, de l'accueil de repas de groupe, en mode un peu tourisme plutôt... de masse, c'est pas un joli mot, mais dans pas de spécificité particulière, un peu folklore.
Qu'est-ce qui a changé, du coup, depuis?
Alors, les murs sont toujours là, mais ils sont là depuis 200 ans, donc je pense que ça bouge pas. Les vergers sont là, on les a sortis des ronces, on a réparé, bricolé un peu l'outil de travail, et puis on a mis de nous dedans, voilà, avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, on est plutôt content parce que même si évidemment on n'avait rien de très dessiné, il y avait des choses qu'on avait envie de vivre ici et qui arrivent par des chemins détournés. Mais qui finissent toujours par arriver. Donc ça, c'est chouette, quoi. On a l'impression d'être relativement immobile dans notre lieu, pas forcément d'aller chercher beaucoup, d'être moteur à l'extérieur. Et pour autant, c'est un lieu qui finit toujours par accueillir des événements qui nous plaisent bien, quoi. Dont dans les 4 jours là, de réseau salarial.
Et vous veniez d'où, comme bon,
au préalable? Alors, juste avant, on était à Angers tous les deux, Baptiste et moi, et on travaillait dans le réseau Biocoop, dans les services centraux, au niveau des achats. D'accord. Entre les producteurs et les plateformes de distribution de magasins, quoi.
D'accord.
On a des formations agricoles tous les deux, pas de chemin familial défini pour une reprise de ferme toute cuite. Et puis du coup, on a bossé en périphérie de l'agriculture au sens large, un peu environnemental pour moi, plus machine et tout ça pour Baptiste. Et on s'est rencontrés chez Biocoop. D'accord. Et là, comme on avait chacun dans notre coin de tête une envie d'installation, à deux, c'était déjà vachement plus envisageable de la concrétiser. Donc on a lâcher la branche du salariat tous les deux pour reprendre cette ferme-là. Parce que Baptiste avait vécu sur la presqu'île quand il était petit et qu'il a beaucoup déménagé et que c'était un des endroits où il s'était senti le mieux. Donc c'était un peu le côté idéal du lieu. Sinon, on cherchait... Il y avait quoi ? C'était Presqu'île de Crozon, le top, ensuite Finistère, ensuite Bretagne. Et puis sinon, c'était Auvergne ou Pyrénées. On était quand même... Il y avait des recherches dans plein de directions, mais notamment ici. Et ici, c'est le mot maître de la ferme depuis le début et de pas mal de personnes qui y passent. C'est le potentiel qui nous a séduit. On s'est dit, là, il y a potentiellement pas mal de choses à mettre en place.
Et alors, donc, au niveau... T'as souvent intervenu au niveau de la structure de votre activité.
C'est-à-dire la structure juridique.
Oui, qui a beaucoup évolué et que vous n'êtes pas encore tout à fait en situation de stable ou définitive par rapport à...
Ah oui, je crois qu'on n'envisage pas des situations définitives, mais d'accord. En tout cas, quand on est arrivé, quand on crée une entreprise, il faut dire les mots, il faut choisir un statut juridique. Et donc le premier qui nous est venu à l'idée dans le dépliant, le catalogue, je ne sais pas, c'était Scop. Le passage par Biocop a quand même amené aussi pas mal d'éléments de réflexion à ce niveau-là. Et donc Scop, ça nous paraissait chouette. On était deux, mais dans le potentiel que j'évoquais de la ferme tout à l'heure, on envisageait déjà du collectif. Et on s'est dit, bon, on arrive dans un endroit où on ne connaît personne. Ceci dit, Scop pour nous, c'était créer une entreprise avec des portes ouvertes, où d'autres envies, d'autres personnes, d'autres idées pouvaient venir, entrer et partager la chose, et que si on prenait ça dès le départ, peut-être ça permettait d'ouvrir tout de suite les portes. Et ça met du temps à s'installer dans un lieu, à rencontrer d'autres idées, d'autres personnes, d'autres envies. Et pendant ce temps-là, la reprise de la ferme a été vraiment très très compliquée. On a été en difficulté financière très rapidement. Et du coup, on a regardé tous les postes financiers sur lesquels on pouvait jouer. Et c'est dommage, mais le statut Scop, c'est celui sur lequel on a lâché en dernier quand même. Hein. On a lâché un peu tous les autres. Après, on a fini par lâcher celui-là. Parce que le fait d'être salarié, c'est associé à des contributions sociales qui sont normales, mais qui nous plombaient ici. Et on pouvait pas, on n'a pas trouvé de solution pour éviter la sortie du réseau Scop, quoi. Voilà.
Mais vous ne désespérez pas de reprendre éventuellement ?
Les idées sont ouvertes. Ouais, je pense que le côté Scop, ça nous a un peu refroidi, parce que du coup, ce salarié est de devoir produire son propre salaire, alors que en fait, on va tout payer avant même de se payer. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. On paye tout le reste.
Ça j'avais compris, oui.
On se paye soi-même en dernier si jamais il reste des miettes, quoi.
Ah, ouais.
Et comme là, c'est pas le cas, pour nous, c'est vraiment un poids. Trop important pour qu'on retourne vers ça. Par contre, le côté collectif, ça c'est certain, on en a envie. Et là, on réfléchit plutôt au côté SIC, donc société coopérative d'intérêt collectif. Et ça nous paraît plus adapté, à la fois dans la structure, telle que la structure évolue aujourd'hui avec les diverses activités et les divers statuts des activités qui s'installent. Et le fait aussi que ce soit encore plus ouvert, puisque dans une SIC, on peut avoir aussi des bénévoles, des usagers.
Voilà, c'est ça.
Et ça nous paraît vraiment super intéressant.
C'est cohérent avec le projet.
Du coup, c'est ce qui est plus cohérent, c'est ça, c'est de voir. Peut-être qu'on n'avait pas un choix de vision. Enfin, je sais pas comment. Les choses se sont passées, mais maintenant qu'on est plutôt dans le fonctionnement, on peut adopter ensemble quelque chose qui correspond aux activités. Et juste utiliser, est-ce que c'est définitif? Je crois qu'il n'y a rien de définitif dans la vie.
C'est pas dans ta tête.
C'est pas dans ma tête, non, parce que les choses sont révocables, retournables, adaptables. Mais c'est vrai que ce serait quelque chose d'assez intéressant, je pense, d'avoir cette enveloppe-là.
Voilà. Comment vous êtes mis à l'activité? Vous ne la connaissez pas, cette activité de ciderie?
Ça, c'est une question rigolote. On est parti comme des dingues, on a cette folie-là un petit peu. Et puis, Et puis, enfin, moi, personnellement, je suis persuadé que quand on ne sait pas faire quelque chose, il suffit de l'apprendre pour savoir le faire.
Quoi. Oui, ça, c'est...
Voilà. Et, alors, ça paraît simple. Il y a une... Je pense qu'on n'est pas inquiet. En fait, il y a aussi cette... C'est pas de la confiance en nous. C'est juste qu'on n'est pas inquiet. On s'est dit, bon, bah, tout ce qui est stress, crainte, tiédeur, bah, on va le laisser de côté et bah, on fonce, quoi. C'est... Ouais. Il y a ce côté-là aussi. C'est... Alors du coup, quand même, il a fallu faire un choix. C'est-à-dire qu'effectivement, faire du cidre, bah, ça ne s'improvise pas complètement.
Bien sûr, ouais. J'imagine.
Quand on n'a jamais touché à ça.
Ouais. Qu'on n'aime pas ça.
Qu'on n'en boit pas et qu'on n'aime pas ça. Parce que c'était ça le point de départ.
Pas mal.
Et donc, bah, il a fallu se former.
Il y a eu des initiateurs, non?
Non, en fait, je suis allé. Il y a une formation en France qui est dans un lycée agricole de Normandie,
oui,
qui propose une formation à apprendre à faire du cidre.
D'accord.
En un an, et c'est une formation qui a été vraiment très intéressante, qui est très complète, et qui m'a permis. Alors, je sais plus comment on a fait le choix, mais il fallait que l'un de nous deux suive cette formation. Et je sais plus comment ça s'est fait, mais
moi, je voulais plutôt être avec des moutons.
L'un n'empêche pas l'autre.
Non, bon, ça rajoutait trop d'activité, ouais, oui, mais oui. C'était dans ce sens-là.
Ouais, c'était dans le montage du projet. On était déjà sur place et le projet n'était pas encore défini. Donc c'est vraiment très spécial. Ouais. On s'est dit la priorité, bah, c'est de savoir faire du cidre, puisqu'on a un outil qui est là pour faire.
Qui est là, oui, il y avait tout ce qu'il fallait pour.
Il y avait tout ce qu'il fallait pour, mais on ne savait pas le faire fonctionner.
Ouais.
Et du coup, moi, alors c'est dans la formation agricole, c'était assez pratique. Donc je suis allé me former pendant un an. Donc j'ai appris les différentes techniques. Alors, comme toute formation, bah, c'est l'industrie qui parle. Hein. C'est,
donc
on voit les contre-exemples. On n'apprend pas à faire du cidre nature. C'est ensuite beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Et j'ai eu une chance, je m'en rends compte, parce que d'autres copains ont suivi cette formation par la suite, c'est que quand j'y suis allé, il y a une chance. La chance est vrai. Enfin, le hasard, même s'il n'existe pas, selon certains points de vue, c'est qu'il y avait plein de gens dans cette formation de toute la France qui venaient apprendre à faire du cidre, et plein de gens qui étaient quasiment dans la même situation que nous, des gens qui changeaient de vie.
Oui, c'est ça.
Et qui, alors il y en avait un qui était parisien, responsable de communication dans une maison d'édition, il y en avait un qui était banquier au Pays Basque, il y en avait un qui était garagiste, mais des profils incroyables. Il y en avait un qui était conseiller à la chambre d'agriculture. Il y avait toutes sortes de profils de gens qui se sont dit, bon bah, on change de vie et puis bah, pourquoi pas le cidre.
Ouais.
Et pareil, sans connaissance particulière au départ, sans idée préconçue, et il y a une amitié énorme qui s'est développée pendant la formation. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas aux heures de cours, c'est-à-dire que le soir, on était tous logés dans le lycée agricole, dans l'internat, et on se retrouvait tous pour discuter cidre, pour apprendre qu'est-ce que c'était que le cidre, et déguster ensemble, etc. etc. Et on a gardé des bons liens, et l'idée qu'on a aussi du partage de nos valeurs et de nos techniques vient en partie de là, de dire, ben, il faut pas qu'on reste dans son coin. Et c'est qu'ensemble qu'on va avancer. Et ça m'a plus, enfin, autant ouvert que la formation elle-même, les trucs très théoriques de transformation,
bien
technologie,
sûr,
etc., oui, les cours.
C'est la véritable formation, en fait.
Oui, la formation,
c'est l'échange, quand même.
Elle n'aurait pas été autant complète si ça avait été un cours du soir, un cours à distance, tout seul dans son coin. Là, il y a eu le côté humain qui a été génial et très enrichissant.
Et alors, l'identité particulière, c'est le site naturel, bio, et donc ça exige naturellement également là de s'informer, de se...
Oui, alors là, ça a été aussi de... Il y a ce qu'on apprend, il y a des bases qui permettent de comprendre ce qu'on fait,
oui.
Et après, il y a soi. Et on a aussi cette idée qu'on doit se sentir entier et responsable de ce qu'on fait, et donc faire les choix. On se dit, bon, nous, on a des copains vignerons en vin nature, qui donnent des éléments, et dès qu'on rencontre un vigneron, dès qu'on rencontre un brasseur, dès qu'on rencontre un autre cidrier, ben, on sait tout de suite, ben, qu'est-ce que c'est,
comment tu fais,
donner des conseils et en prendre en retour. Et puis, il y a aussi le fait... l'autre mentalité qu'on a, c'est de dire, mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'éléments, mais qu'on a un objectif et qu'on sait ce qu'on veut, bah, il faut inventer. Si on est les seuls à faire du cidre nature, mmh. on croyait, enfin, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on est isolé dans le coin, on était les seuls à arriver avec cette idée-là dans le Finistère, quasiment, il n'y en a pas d'autres.
On n'a pas cherché non plus, on n'en connaît pas. On a fait à notre idée. Ouais, vraiment, ouais. Quoi.
Mais ouais, l'idée, c'est ça, c'est de dire, bah, si ça n'existe pas, il faut l'inventer.
Ouais, ouais.
C'est ce qu'on a trouvé. Alors, c'est une petite expérience de Biocop qu'on avait, c'était que c'est, on pense que c'est une erreur qui avait été commise collectivement par l'entreprise Biocop. C'est de dire, bon, on est des distributeurs de produits alimentaires bio, on a une spécificité, donc on a un métier différent. Et au lieu d'inventer soi-même son métier et de le créer parce qu'il n'existe pas, ils sont allés chercher des informations chez d'autres qui font un métier qui est comparable. Et nous, on voulait pas tomber là-dedans parce que si on fait ça, on va forcément faire la même chose que les autres.
Vous allez perdre des valeurs.
Et on va perdre la valeur. Ouais. Et donc, on est parti à dire, bon ben, on veut faire ça, il n'y a pas de référent, il n'y a pas d'aide extérieure, et ben on va découvrir par nous-mêmes, on va expérimenter et on va développer ça.
Des explorateurs, un peu comme ça.
Ouais, des pionniers.
Expérimenteurs, explorateurs.
Pionniers, non, parce qu'il y en a qui en font depuis longtemps, mais en tout cas, ça peut paraître bizarre si on le laisse sans suite, là, le fait d'avoir choisi de faire du cidre alors qu'on n'en boit pas et qu'on n'aime pas ça. L'idée, c'est aussi, Baptiste avait quand même un élément important, il savait qu'ici, les pommes étaient amères, il avait déjà goûté du cidre avant d'ici. Ouais. Et donc, c'était une idée que ça, malgré tout, dans un coin, c'était resté que ça pouvait être différent de ce qu'on rencontre par ailleurs. Mmh. Et donc, on est arrivé ici en se disant, on va faire du cidre comme on ferait comme on aime la bière, nous. C'est-à-dire, d'accord. On aime bien les bières plutôt sur l'amertume.
Et par similitude avec la bière.
Voilà. Mmh. Et donc, on a commencé par ça. Et après, c'était notre seul... Enfin, c'est pas le seul objectif, mais en termes de cidre, c'était ça qui nous guidait.
D'accord.
Et du coup, derrière, on a pioché à droite, à gauche, et on a aussi expérimenté pour arriver jusque-là, pour faire un cidre qu'on aime. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours standardisé. Il y a forcément moyen de le faire
autrement. On l'a goûté abondamment. Hein.
Et c'est vrai qu'il y avait une solution de facilité qui aurait été de faire comme certains font, et on le déplore, c'est de dire, bon, ben, on va faire le cidre comme tout le monde le fait.
Traditionnel.
Traditionnel, avec les goûts habituels, etc.
Un produit
qu'on n'aime pas et qui va se vendre. Et qui va se vendre tout seul. Et nous, on s'est retrouvés, alors avec une ferme qui était déjà dans l'agrotourisme et plutôt axée tourisme de masse, à accueillir des personnes qui n'avaient aucune idée d'où ils mettaient les pieds. Eux, ils pensaient trouver du Loïc Raison fait sur place, ce qui était le cas quelques années auparavant. Et on les accueille en leur faisant déguster, en expliquant des notions de dégustation, d'œnologie, de comment ça se travaille, avec quoi ça va, etc. Et ça fait penser un peu à de la surqualité, mais je pense que tout le monde y trouvait son compte, finalement. Et ça participe de l'invention du métier qu'on a eu aussi. C'est-à-dire, ben, quand quelqu'un vient, ben, on va pas lui servir du marché, on va lui servir notre identité, notre idée. Les rencontres. Et ça marche.
Ouais.
Et c'est ça qui est encourageant, ça n'aurait pas du tout à commencer.
Il y a une part de créativité importante, en fait. Hein.
Oui, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et puis, parce qu'on va pas à contre-courant, mais on fait un pas de côté. C'est-à-dire que les visiteurs habituels ont une image préconçue quand ils viennent ici. Ils veulent, alors pour certains, ils veulent de la bigoudaine, ils veulent de la crêpe de blé noir à tous les repas, ils veulent du cidre qui ressemble à ce qu'ils trouvent dans leur supermarché du coin.
Ils sont conditionnés, quoi.
Ils sont conditionnés, ils ont eu... Et nous, justement...
Vous les prenez à contre-pied.
Un peu à rebrousse-poil, c'est-à-dire, attendez, on va démystifier ça.
C'est pas ça.
On va vous expliquer, nous on va vous faire de l'authentique. Ou notre vision de l'authentique, c'est-à-dire, mais non, en fait, ça peut être différent. Et c'est pas aussi simple que ça. Et alors certains tournent le dos et disent ah non, nous on veut de la gigoudaine, du bol à prénom et tout le...
Non, pas pareil.
Et puis tant pis, peut-être que vous reviendrez plus tard pour prendre ces choses-là. Et beaucoup de personnes étaient, et encore aujourd'hui, sont une satisfaction géniale parce que notre premier métier, enfin notre première approche, c'est de ne pas les prendre pour des imbéciles.
Oui.
Et essayer de partager, de dire mais voilà, on va vous expliquer ce que c'est, et comment nous on le voit. Et c'est plus comme ça qu'on aborde les choses.
Il faut qu'il fasse un chemin vers vous quand même aussi.
Ah bah il y a un... Alors il y a l'attirance, le lieu est pas mal fait pour ça, mais c'est vrai que je pense que aujourd'hui j'ai l'impression que ça a évolué, que notre clientèle est un petit peu différente, mais au début ils ne savaient pas du tout où ils mettaient les pieds. On va acheter du cidre du paysan du coin, et quand on leur parle, je sais pas, adoucissement par transformation malolactique, assemblage de cidre, tanin, quand on leur fait un petit peu des explications sur qu'est-ce qu'on perçoit quand on déguste, ce que c'est qu'une saveur, un arôme, etc., etc., eh ben, y a un plus produit qui ne se valorise pas financièrement, parce que tant mieux, mais qui nous paraît. Je pense qu'on s'ennuierait et on se trouverait un peu inutile si on le faisait pas.
D'accord. Oui. Et alors, ce lieu aussi, ce lieu aussi, il sert également d'accueil. Donc c'est une autre particularité.
Oui, alors ça c'était vraiment quelque chose dans notre cahier des charges qu'on avait défini de quand on s'installerait, qu'on deviendrait paysan, ce qu'on voulait trouver, enfin ce qu'on voulait mettre en œuvre sur la ferme, c'est dire une ferme, c'est souvent des lieux avec beaucoup d'espace. Alors, du hangar, de la prairie, du champ, des choses comme ça, et qui doit relocaliser la vie au niveau local.
C'est ça.
Et donc, un des premiers trucs qu'on se disait, c'est qu'il faut une ferme, ça doit proposer aussi autre chose, et enfin, toute vie locale, dans la vie, on doit pouvoir accueillir spectacle, de la musique, des diffusions de films, du théâtre, et la structure des bâtiments.
Le lieu s'y prêtait.
S'y prêtait, mais parfaitement. C'est vrai que, et c'est ce qui nous a séduit aussi, et ce qui a fait qu'on a foncé tête baissée dedans. On a dit, c'est exactement
c'est ce idéal, quoi.
C'est l'idéal. Ouais. Absolument. Et donc, on a vu passer des tas de gens, des musiciens, des comédiens, des conteurs, puis des visiteurs, et puis des gens qui ont été enthousiasmés par ce qu'on faisait.
Et un festival du type du réseau salariat, ça vous est arrivé plusieurs fois, ou c'est déjà un cas un peu unique, là?
Alors, il n'y a pas de cas standard, donc vous êtes unique, si ça vous rassure.
Mais je peux témoigner que le lieu a participé vraiment à la réussite. Ça, c'est incontestable. Ouais. Par contre, on ne retrouve pas vos bouteilles dans les biocopes
Non.
Vous faites que de la vente directe.
Moi,
à la biocope de Cholet, je ne risque pas d'en trouver.
Ah non, on n'est pas distribué par biocope.
Ah d'accord.
Par contre, on est localement, on n'est dans aucune biocope. On ne les a pas démarchés. Parce que sur la presqu'île, il y a un magasin bio, mais qui est sorti du réseau biocope.
Ah d'accord.
On fonctionne avec, mais voilà.
Oui.
À Brest, on a été contacté. En fait, on ne cherche pas.
Bien, très bien.
On n'a pas une très grosse production. On peut tout vendre sur la ferme pour l'instant. Oui. Et donc, on n'a pas trop démarché. Et donc, c'est plutôt des rencontres, comme pour l'accueil de groupe, c'est plutôt des choses qui sont venues vers nous. Et là, il y a un autre magasin bio à Brest. Et en termes de magasin bio, ça doit être tout, en fait.
Oui, et puis il y a aussi le fait qu'à faire des produits atypiques, il y a quand même besoin d'un accompagnement de l'acheteur potentiel.
Oui, on ne peut pas en vendre ça comme
Le reste. Ça nous est déjà arrivé, c'était au magasin bio de Crozon, donc on a notre cidre, le bordel amer, qui est
calibré pour aller avec des huîtres. Voilà, il est super.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Il est sec et amer. Ouais. Et il y avait une dame qui était revenue, qui en avait acheté une bouteille, qui était revenue au magasin en disant « Ah, mais il a un problème, ce cidre, il a tourné ou je sais pas quoi, parce que je l'ai servi à mes enfants pour le goûter. Ils ont tous pleuré, c'est une catastrophe. »
C'était écrit sur l'étiquette.
Ah oui, il s'est marqué.
C'était marqué.
Ce n'est plus marqué. On est passé à des suggestions de lecture.
De lecture.
Plutôt que d'accompagnement de plats, de moments, on est passé à des suggestions de lecture.
C'est-à-dire
En 2016, on a eu beaucoup de soleil et pas d'eau. Et du coup, on a eu des cidres beaucoup plus fruités. Donc, on n'a pas pu aller dans les directions dans lesquelles on allait d'habitude pour nos cuvées. Et du coup, sur l'étiquette, ça ne marchait plus de dire « accompagne les huîtres, accompagne les fromages ». Et on a gardé quand même la structure et on a mis deux livres.
Ah voilà, d'accord.
Par cidre, il y a deux livres. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est conseillé, recommandé, mais en tout cas, indiqué.
Oui.
Indiqué. Ouais. Voilà. Et on trouve ça, et ça nous.
Et c'est resté.
C'est resté. Ouais, tout à l'heure, il y a une vigneronne d'Alsace qui est passée. Elle nous disait qu'un de ses copains qui fait du vin aussi près de chez elle, là, lui, il fait des indications de musique avec ses vins.
Oui, c'est pas bête.
Pourquoi pas? Après ouais. Tout, il y a d'autres moments.
C'est une autre œnologie.
Voilà, puis à travers les indications de lecture, il y a des petits. C'est un peu de la distillation douce de petits messages. Il y a quand même une thématique derrière. Ouais, ouais.
Ah oui, on ne dit pas qu'il faut bien du Marc Lévy.
C'est plutôt militant, quoi. Dénoncer, on met des livres qui nous ont plu dans l'année et plutôt.
D'accord.
Plutôt militant.
Oui. Chouette. Très bien. Mais moi, ça.
Hein, ouais, moi aussi.
J'ai mon compte pour faire mon petit chapitre dans le bouquin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc vous pouvez retrouver les horaires d'ouverture de la ferme de Kermarzan sur leur site internet. Je mettrai les liens dans l'article de l'émission et aussi les contacter pour si vous voulez organiser un événement. En fait, c'est possible que ce soit une conf, un truc pour quelques heures, mais aussi pour organiser quelque chose où vous dormez sur place, par exemple avec un groupe. Il y a de quoi camper et des petites douches. Donc voilà,
c'est important.
Parce que l'idée pour eux, c'est vraiment que cette ferme, elle vive, que ce soit pas seulement donc un endroit où on produit du cidre. Et ils sont assez touchants parce que, enfin, moi j'aime bien leur histoire de, on aimait pas le cidre en fait, mais on se retrouve en fer finalement. Et puis un peu leur façon d'accueillir les gens, de vouloir vraiment. Ouais, comme il dit, on vend pas du folklore ici, quoi. On n'est pas avec les bols à prénoms et le truc. Donc, par contre, ils ont vraiment des personnes qui, des fois, sont très, très étonnées et repartent en courant aussi. voilà, mais je vous conseille d'aller découvrir la Maison du Sud par vous-même. Et puis, merci à Mikey qu'on entend, le monsieur qu'on entend interviewer, en fait, à côté de moi, qui est un gars dont je reparlerai peut-être, qui habite en Angers et qui est en train fait des interviews comme ça. Et il va sortir bientôt une BD qui s'appelle « À quoi tu penses quand tu travailles ?» à partir de toutes les interviews qu'il aura menées auprès des gens.